25 janvier. J'ai dormi la nuit dernière dans mon bureau où j'avais fait dresser un lit. Pour la première fois, je suis restée sur mes positions. À la fin de la scène, hier, Madeleine, alors que j'étais à me demander si je n'avais pas excédé mes droits, s'est brusquement ressaisie. En l'espace d'une seconde, elle a cessé de sangloter. J'ai déjà remarqué à maintes reprises cette faculté qu'a ma femme de s'arrêter net de pleurer. Elle s'est levée, et le visage serein sous les larmes, elle est passée devant moi, non pas fièrement, ni avec un air de vengeance, mais comme si je n'avais pas été la cause de sa peine, comme si tout était fini entre nous, et elle s'est rendue dans son cabinet de toilette, où, au bruit que font les objets quand on les pose sur la tablette de verre qui se trouve au-dessus du lavabo, j'ai deviné qu'elle se remaquillait. Cela ne fit qu'accroître ma colère. Je regagnais furieux mon bureau. Je ne voulais plus la voir et je l'évitais avec soin. La nuit, pourtant, comme je somnolais, reposant sur mon divan, et que peu à peu je m'apaisais, j'eus conscience soudain d'avoir été injuste. Des remords me vinrent. Un instant, je songeais à aller la retrouver, à lui demander pardon, mais le sentiment qu'elle ne serait pas sensible à mon repentir me tint immobile. Madeleine est ainsi faite que, si ce n'est pas sur le champ qu'on implore son pardon, on se trouve ensuite en face d'un être qui semble ignorer jusqu'à la peine qu'on lui a faite, un être de pierre, indifférent à tout ce qui vient de l'extérieur. Au matin, tant me sont pénibles ces guerres sournoises, je résolus d'aller frapper à la porte de sa chambre. À peine en sa présence, je lui demandai « Madeleine, as-tu oublié ?» À ma grande surprise, elle me répondit sans dureté, avec tristesse plutôt. « Toute la nuit, j'ai réfléchi, Louis. Maintenant, je comprends que tu as raison. De toute façon, il aurait fallu que nous en arrivions là. Autant le faire tout de suite. Nous allons divorcer. Tu prendras ta liberté, je prendrai la mienne. » Ces mots, dits doucement, comme après une longue réflexion, me firent trembler. Car si Madeleine a peur de moi quand je me fâche, j'ai peur d'elle quand elle est calme. « Tu n'as donc pas compris, dis-je, que tout cela était pour rire ?»« Peut-être, mais c'est quand même la vérité. » Madeleine eut ceci d'extraordinaire qu'elle ne s'étonna pas que je pusse soutenir que les cris de la veille avaient été une plaisanterie. Ainsi que je l'ai déjà signalé, elle n'accorde aucune valeur à mes paroles. Pas une seconde, il ne lui venait à l'esprit de me reprocher ma dureté. Ce sont les conséquences des choses et non leurs causes qui lui importent. Qu'avait-elle à faire de mes explications, puisque tout n'en demeurait pas moins comme avant ? Louis, il faut que nous nous quittions, c'est la solution la plus sage. Elle ne fit pas la moindre allusion à ce qui s'était passé. D'ailleurs, cela n'existait plus pour elle, et je le sentis si nettement que je perdis d'un seul coup tout désir d'implorer son pardon. Si je l'avais fait, elle n'eût certainement pas compris pourquoi, et elle m'eût regardé comme un comédien. Et pourtant, je suis de ces hommes qui aiment à regretter leurs fautes, à se repentir pour ressusciter ensuite. Avec Madeleine, chaque fois que j'ai voulu me laisser aller à ce penchant, j'ai été arrêté par sa froideur. Elle ne comprend pas à quelle joie radieuse j'aspire. Au seul début d'une tentative, elle est terrifiée, comme si j'étais un monstre, mais tout cela n'est rien. Ce qui est effrayant, c'est que je n'ai plus aucun moyen de la retenir, puisque mon cœur est impuissant. Il me restait de passer outre à ses paroles et de la garder de force. Mais avec quel étonnement elle eut regardé l'homme qui, la veille, lui avait commandé de partir pour aujourd'hui se rétracter. Elle m'eût certainement traité de fou. Je bravai pourtant ce courroux et dis « Je ne veux pas que tu partes, je t'aime trop pour te laisser partir. » À l'encontre de ce que je m'imaginais, elle ne manifesta aucune surprise. « Mais puisque tu le désires toi-même !» Il ne venait pas à l'idée de Madeleine que je pusse ne plus vouloir ce que j'avais voulu. Son regard de stupéfaction, c'était sans doute à présent qu'il allait se poser sur moi. Mais j'ai changé d'avis. Je ne m'étais pas trompé. À peine avais-je prononcé ces mots que Madeleine eut une expression d'étonnement, pourtant moins forte que je ne l'avais attendue. Il était visible qu'elle avait pris le parti de ne pas me comprendre et que, au cours de ses réflexions nocturnes, elle avait décidé de faire ce qui lui semblait bien sans tenir compte de moi. Nous éprouvons en ces circonstances un sentiment pénible à voir notre adversaire méconnaître ce qu'il y a de généreux en nous à seule fin de n'être retenu par aucun scrupule. J'étais libre de dire ou de penser ce que je voulais. Plus rien n'avait d'importance. Une décision était prise et quoi que j'eusse fait, elle demeurait. Madeleine songeait sans doute que, si on m'écoutait, on n'en finirait pas, que, pour aboutir, il ne fallait plus s'arrêter à discuter mes extravagances. J'étais anxieux, je ne savais comment donner à ma personne quelque relief. « Il vaut mieux, continua-t-elle, terminer tout de suite, ainsi que tu le désires d'ailleurs. »« Mais je ne le désire plus. » Je ne savais avec quel argument la fléchir. Jusqu'à ce jour, quand je me dédisais, je le faisais à la manière d'un jeune homme qui peut tout se permettre, tant il apporte de grâce à ses volte-face. Mais je sentis que cette fois, un tel enfantillage ne passerait pas. Brusquement, je dis avec brutalité, « Tu n'as qu'à m'obéir. Si je ne veux pas que tu partes, tu ne partiras pas. » Ces mots ne causèrent aucune impression sur Madeleine. « Ne te fâche pas, répondit-elle simplement, puisque c'est toi qui l'as voulu. » À elle, qui d'ordinaire se soucie peu de mes paroles, ce que j'avais dit semblait définitif. Je le lui fis remarquer avec irritation. « Mais pas du tout. » Une longue discussion s'ensuivit, au cours de laquelle je tentais de lui faire reconnaître qu'elle n'avait jamais pris mes menaces au sérieux et que, si elle le faisait à présent, c'était qu'au fond, elle désirait me quitter. Cette insinuation la plongea à son tour dans une grande colère. « Est-ce que c'est toi ou moi qui, le premier, a parlé de cette séparation ?» me demanda-t-elle sèchement. Je répondis que c'était elle, aussi insensée que cela paraisse. Car j'ai ceci de particulier, lorsque je me sens le plus fort avec les femmes, que je nie la vérité. « Comment, c'est moi ? » fit-elle absolument ébahie. « Mais oui, c'est toi !» J'espérais aussi de la contraindre à sourire, comme elle le faisait d'habitude, à me dire « Tu es un monstre d'inconscience !» Ce qui m'eût soulagé par ce qu'il y a d'amoureux dans ce genre de constatation. Souvent, j'avais de cette façon désarmé Madeleine, car lorsque je suis aussi visiblement de mauvaise foi, elle se rend compte qu'elle est la plus faible, puisqu'elle est impuissante à me ramener à la raison, et cela suffit à faire renaître l'attachement. Mais ce jour-là, ma mauvaise foi ne détermina aucune réflexion susceptible de nous réunir. Pourtant, je sentis qu'il en était une sur les lèvres de Madeleine, qu'elle se gardait de libérer, du fait justement que nous nous rapprochions l'un de l'autre. De même que, quand elle boudait, elle se défendait de m'appeler son chéri, elle se défendait à présent de me traiter de monstre. « Comment, dit-elle encore, tu as l'audace de prétendre que c'est moi qui, la première, ai parlé de reprendre ma liberté ?» Car de toutes les injustices, c'est peut-être la mauvaise foi qui la blesse le plus. Celle-ci a beau être évidente, Madeleine se rebelle, comme si elle était seule à s'en apercevoir. Mais alors que jadis, elle ne tardait pas à sourire de son ardeur à défendre la vérité, elle voulait discuter pied à pied. « Tu oses prétendre cela ?»« Oui, j'ose !» répondis-je, avec l'espoir que l'invraisemblance de cette affirmation la désarmerait. Ce fut à ce moment qu'elle me montra à quel point je faisais fausse route. « Eh bien, mon cher, c'est la dernière fois que tu t'amusais ainsi à mes dépens. » Cette parole me glaça. Que ma mauvaise foi fût aussi peu opérante m'éclairait. Les décisions nocturnes de Madeleine avaient résisté au coup d'une longue journée. Un instant, je me tins quoi. Puis, comme reconnaissant mes torts, je dis « C'est toi qui as raison, Madeleine. » En effet, c'est moi qui t'ai parlé de cela le premier. Pardonne-moi, c'est une sorte de piège que je t'ai tendu. J'ai voulu savoir ce que tu dirais si je te faisais une telle proposition. » Avant de me répondre, elle me regarda un instant avec étonnement. « Tu es un infâme comédien, alors !» À peine m'eut-elle adressé cette maladroite injure qu'une sorte de douceur me baigna entièrement. Je savais maintenant que son exaspération ne tarderait pas à disparaître. Je ne pus cependant m'empêcher de la pousser à bout. « Non, je ne suis pas un infâme comédien. »« Tu es même pire que cela. Je crois qu'aucune femme ne supporterait un homme comme toi. » Je cachai ma joie sous un air contrit. Obscurément, je sentais que je redevenais le plus fort. Qu'elle m'injuria, qu'elle s'échauffa, qu'elle devint plus violente encore, était mon espoir. Il fut exaucé. Cependant qu'elle parlait, qu'elle me reprochait d'avoir pu jouer une pareille comédie, elle était de plus en plus incapable d'envisager le divorce. Ce que je redoute par-dessus tout, c'est la froideur qui cache une décision mûrement prise. Mais une telle vivacité, une telle excitation me transportait de joie, non que j'y visse une forme de l'amour, mais parce que Madeleine s'affaiblit à mesure qu'elle s'emporte. Elle élève la voix, se raidit et finit par pleurer. Comme je m'y attendais, elle tomba brusquement en larmes. Je m'approchai d'elle avec douceur. Elle me repoussa sans force. Ses sanglots ne lui laissent aucun désir de vengeance. Une sorte de soumission naît en elle pour l'homme à qui elle s'est montrée en spectacle. Elle, si fière, qui serait incapable de pleurer devant un frère, elle semble penser que, puisqu'elle l'a fait devant moi, c'est que je suis quelque chose d'autre pour elle. Soudain, j'étais devenu son mari. Et le jour où elle me quittera, ce sera certainement un jour où pas une larme ne jaillira de ses yeux, où elle gardera tout son calme, où elle demeurera jusqu'au bout maîtresse d'elle-même. 26 janvier. Depuis hier, Madeleine me parle à peine. Ce n'est pas qu'elle me tienne rancune, mais je le sens bien, c'est qu'elle n'éprouve aucun besoin de le faire. Aussitôt après le déjeuner, elle sort et elle ne rentre que le soir. Et il se passe ceci d'étrange en moi, que je ne vois pas, comme avant, la nécessité de revenir le premier, que j'attends qu'elle change, sans tenter quoi que ce soit pour y aider. Les torts sont pourtant de mon côté. Je me souviens très nettement de ce qui s'est passé. C'est moi qui suis la cause de tout et je lui en veux. Une telle inconscience est normale chez moi. Il y a toujours eu une sorte d'amour-propre en moi qui m'empêchait de reconnaître mes torts. Si je me sentais coupable, au lieu de l'avouer, je m'acharnais à découvrir des fautes plus graves chez autrui. Que Madeleine eût raison sur plusieurs points me laissait complètement indifférent. Elle avait tort quand même. Combien de fois, lorsque devant l'évidence j'étais obligé de convenir que mon imagination m'avait trompé, ai-je brusquement mis autre chose en avant, négligeant tous mes arguments passés pour de nouveaux. Dans ces cas, Madeleine ne remarquait pas que je cherchais un prétexte à ma mauvaise humeur et se justifiait avec la même ardeur du deuxième reproche. Quand ce deuxième reproche s'effondrait et que je passais à un troisième, il ne lui est jamais venu à l'idée de me crier, ainsi que je l'eusse fait « Mais enfin, que me veux-tu ?» Des soirées entières, elle écoutait toutes mes extravagances, les discutait pied à pied, si bien que, lassée, je lui accordais qu'elle était parfaite. Après lui avoir reproché 20 choses dont elle m'avait successivement démontré l'inanité, elle me répondait « Mais non, je ne suis pas parfaite, mais tu te trompes. » Elle avouait ne pas être parfaite, mais toujours je me trompais. Il m'est apparu brusquement que la cause de mon irascibilité de ces jours derniers est que Madeleine a songé à partir, que mes paroles, au lieu de lui donner à réfléchir, l'ont amené à envisager une séparation comme possible. C'est cela qui, depuis une semaine, me hante à son insu et que je ne peux admettre. Une colère sourde est en moi qu'elle ne se fût pas révoltée contre ma magnanimité. Pourtant, je suis injuste, car au fond, elle a eu raison. Comment un homme qui, non sans avoir pesé les conséquences de sa décision, supplie une femme, dans le seul intérêt de celle-ci, de reprendre la liberté qu'il lui avait prise, qui tremble qu'elle ne refuse, tant il est convaincu que ce n'est qu'une fois seule qu'elle sera heureuse, comment ce même homme peut-il en vouloir à cette femme d'avoir cédé à ses prières? C'est ma flamme, c'est mon expression crispée l'enjoignant d'obéir, qui avait provoqué l'acceptation de ma femme. et aujourd'hui je lui reproche d'avoir cédé à tout ce que mon amour pour elle me dictait de lui demander. Je ne mérite pas une telle femme. Un homme comme moi est fait pour vivre seul, sans affection, sans amis. Dieu sait pourtant à quel point mon cœur brûle d'aimer. Je suis injuste. Au fond, je ne sais pas ce que je veux. De toutes mes forces, je désire son bonheur, devrais-je en être tenu éloigné? Et en même temps que je désire cela, de toutes mes forces, de toutes les forces que je peux trouver en moi, en même temps, je ne lui pardonne pas d'avoir accepté. J'ai décidé aujourd'hui que Madeleine ferait ce qui lui plairait. Je ne veux pas être une chaîne, qu'elle soit heureuse. Et cela dût-il me coûter de la perdre, je mets son bonheur au-dessus du mien. Puisqu'elle ne m'aime pas, puisqu'elle souffre en ma compagnie, eh bien, qu'elle fasse sa vie ailleurs. Cette fois, les sentiments égoïstes qui pourront suivre ne me surprendront pas. Je m'en défendrai, j'organiserai ma vie. Dans la solitude, dans le renoncement, je puiserai de nouvelles forces. Aussi, à déjeuner, ai-je fait part à Madeleine de mes projets. Je lui ai annoncé qu'après réflexion, il valait mieux que nous nous séparions, cela pourtant avec une certaine gêne, car au souvenir de ceux qui avaient suivi il y a quelques jours ce même langage, elle eût très bien pu éclater de rire. Il n'en fut rien. Madeleine n'attache pas la moindre importance aux pires contradictions. Je pourrais lui affirmer que je déteste les huîtres et en commander peu après qu'elle ne remarquerait rien. La semaine dernière, je lui avais reproché de vouloir me quitter alors que je lui avais demandé de le faire et aujourd'hui je recommence. Mais pour Madeleine, la vie recommence chaque jour. Le passé n'existe pas. C'était comme si, pour la première fois, je lui rendais sa liberté. Pourtant, j'eus le sentiment qu'elle se méfiait. Non par prudence, mais instinctivement. Elle ne faisait pas appel à ses souvenirs. Seule l'empreinte qu'avait laissée sur elle la dernière scène la tenait en éveil. Quelque chose qui n'était pas de l'expérience l'empêchait de prendre mes paroles au sérieux. Lorsqu'elle est sortie après le déjeuner, j'ai éprouvé une certaine joie, et c'est là où je redeviens injuste à voir à quel point je la dominais. Car alors que, quelques jours auparavant, quand je lui avais parlé de sa liberté, ça avait été comme un drame, cette fois tout s'était passé comme une chose naturelle à laquelle on ne prête plus attention. J'ai remarqué que c'est le sort de toutes mes pensées de finir ainsi. Au commencement, elle bouleverse tout. Ensuite, Madeleine en parle comme des choses insignifiantes. Elle semble croire, si je me répète, que c'est une manie. Ce qui lui a tiré des larmes la première fois, la deuxième fois la laisse froide. Je me surpris alors à chercher autre chose pour l'émouvoir. Car si elle me traite si facilement de maniaque, c'est une conséquence de la domination que j'exerce à son insu sur elle. Oui, dès qu'elle est partie, j'ai pensé à trouver autre chose. Lui rendre sa liberté ne lui causait plus aucune impression. Mais tout à coup, il m'est apparu que j'étais encore plus éloigné d'elle qu'avant, qu'à force de parler, de me contredire, d'agir avec légèreté, elle me considérait comme un malade. J'ai compris que cela perdait, que mon bonheur ne dépendait même plus de moi, que tous mes efforts étaient inutiles. Elle ne m'accordait plus le moindre crédit, et à cause de cela, je me sentais fini. Tout ce à quoi je pense me semblait ridicule. Je ne savais plus comment la retenir. Ce que j'ai dit à déjeuner avait confirmé la certitude qu'elle avait déjà eue qu'il est impossible de vivre avec moi. J'aurais voulu être gentil pour lui faire oublier tout cela. Mais il faut du temps pour être gentil, pour se faire pardonner. Mon cœur était débordant de tendresse et je n'avais pas le temps de le montrer. Si j'avais brusquement changé, cela se fût tourné contre moi. Il fallait que je gagnasse peu à peu le terrain perdu sans que Madeleine s'en aperçût. Et une peur effroyable me vint à la pensée que je n'aurais peut-être pas ce temps, car je désirais une lente progression. Au fond, ce qui me perd, c'est la hâte de montrer mes sentiments, la hâte de plaire, d'être aimé, d'aimer. Je veux tout faire immédiatement. Et en ce jour, justement, il eût fallu beaucoup de douceur et de circonspection. 29 janvier. Avez-vous remarqué à quel point une bonne nouvelle vous éloigne de ce que l'on était avant ? Dans mon inquiétude présente, je me suis surpris à souhaiter de toutes mes forces un événement heureux qui anéantirait l'homme accablé que je suis. Je l'aurais attendu depuis des mois, cet événement, et aujourd'hui, il serait arrivé. Quelle délivrance ! 1er février. Ce matin, comme je le fais depuis plusieurs jours, j'ai longuement insisté auprès de Madeleine pour qu'elle reprenne sa liberté, tantôt à la manière d'un martyr, tantôt en usant de mon autorité, mais toujours avec la menace dans le regard de m'emporter si jamais elle me prenait au mot. Comme ces jaloux qui, des années après, reprochent à leur femme un flirt innocent, je revenais continuellement à la charge. Or, brusquement, Madeleine s'est dressée et, fixant ses yeux dans les miens, elle me parla sans trembler. « Écoute, Louis, je veux t'avouer quelque chose. Ce que j'ai à te dire ne vient pas de tes continuelles menaces. Ne crois pas que c'est à cause de la peine que tu me fais chaque jour que j'ai pris cette résolution. J'oublie tout ce que tu m'as fait et toi, oublie-le aussi. Ce que je veux te dire, il faut que je puisse le faire en dehors de ces mesquines scènes de ménage. J'aime quelqu'un. Jusqu'à présent, je me suis demandé si je devais recommencer avec cet autre ma vie. Après avoir réfléchi, sans qu'aucune seconde ta façon d'agir m'ait influencé, j'ai décidé aujourd'hui de te demander de me rendre ma liberté. » D'un seul coup, ce qui avait été notre vie s'évanouit. Tout ce que chaque jour je lui répétais me sembla enfantin, privé d'humanité, comme les blâmes lorsqu'ils nous apparaissent injustifiés. Ce ne fut plus moi que je considérais comme cruel, mais Madeleine. Je la dévisageais de manière à lui faire comprendre la gravité de ce qu'elle projetait, c'est-à-dire avec une expression à la fois suppliante, incrédule et interrogatrice. « Ce n'est pas possible !» dis-je péniblement. « Mais si, mon pauvre ami !» Pas un reproche ne vint sur ses lèvres, pas une excuse que mon attitude antérieure pouvait pourtant lui fournir. Un instant auparavant, je l'avais encore harcelée. Elle n'en tirait aucun argument. J'eusse été le plus affectueux des maris qu'elle ne m'eût pas parlé autrement. Je comprenais que, dans son esprit, ce qu'elle m'avait annoncé était en dehors de ce qui se passait entre nous, et elle était trop honnête pour prendre appui sur ma méchanceté. Parce qu'elle répondait d'elle-même, elle me parlait exactement comme si jamais la moindre dispute ne nous eût séparés. Elle me plaignait en m'appelant son pauvre ami. Elle me plaignait et cela me montra à quel point tout ce que j'avais pu dire avait glissé sur elle. En même temps que je souffrais, une sorte de dégoût de moi-même m'envahissait au souvenir de tous mes actes. J'avais été violent sans trouver de résistance. Il est une chose à quoi j'ai toujours rêvé d'inspirer confiance. J'ai toujours rêvé que ma vie fût si droite que, au moment où je parlerai, mes paroles auraient de l'importance, mes actes également. Or, à cause de ma bêtise, à cause de je ne sais quel trou de mon intelligence, j'ai toujours ruiné ce crédit. J'ai beau dire ce que je pense avec toute ma foi, on ne me croit plus. J'ai beau jurer, c'est fini, la confiance est partie. Et je reste avec mon cœur sincère, avec mon impuissance à me faire comprendre. Madeleine, en m'appelant son pauvre ami, me montrait brusquement combien grande était mon incapacité de la garder. Ma tendresse, mon amour lui-même avaient perdu leur crédit. Je pouvais me jeter à ses genoux, il y avait trop de choses derrière moi qui me desservaient. Oui, Madeleine me plaignait. Elle avait pitié de moi. Cependant que je la martyrisais, que je raisonnais, elle vivait ailleurs et ne me tenait même pas rancune de mon injustice et de ma méchanceté. Pendant des mois, je m'étais donc adressé à un être qui ne m'écoutait pas. Mes colères avaient donc été ridicules, puisqu'on ne les avait même pas prises au sérieux. Je m'étais démené, cependant qu'on était toujours demeuré calme. Ce dégoût que je m'inspirais grandit encore. « Mais enfin, qui aimes-tu ? » ne pus-je m'empêcher de demander. « Quelqu'un que tu ne connais pas. » « Mais il t'aime, ce quelqu'un ? » Elle me regarda sans répondre. Je devinai alors, à sa flamme, qu'elle eût été jusqu'à me dire non pour me faire plaisir, tant elle était certaine de cet amour. Une seconde, la pensée me vint d'insinuer que cet homme ne devait pas être grand-chose, ainsi que le fait Madeleine, des femmes qu'elle ne connaît pourtant pas. Mais une sorte de pudeur me retint. D'ignorer qui il était, ni comment il était, me rendait semblable vis-à-vis de lui à un enfant. J'éprouvais un pénible sentiment d'infériorité. Sans avoir vu cet homme, je me l'imaginais droit, fort, honnête, et j'avais l'impression d'être une larve à côté de lui. Il me semblait aussi que Madeleine était à même de mieux me juger, qu'elle avait des points de comparaison et que tout cela était à mon désavantage. Alors, petitement, je ne songeais plus qu'à jouer sur ce sentiment dont j'avais la confuse connaissance que les femmes, par leur côté maternel, se sentent attirées justement vers ceux qui souffrent et qui sont faibles, sans que j'envisageasse une seconde que mon rival pouvait être justement beaucoup plus digne de protection que moi. Je l'implorai du regard, tâchant de lui montrer combien profonde était ma détresse, combien misérable était mon sort, combien plus digne de pitié j'étais que cet homme fort qui prenait ma place. « Enfin, Madeleine, tu ne peux tout de même pas me cacher qui est cet homme ?»« Il est en dehors, » répondit-elle dans une sorte d'extase. En entendant ces mots, je sentis qu'elle l'aimait à cause de cela, qu'il était grand de n'être pas mêlé à notre vie lamentable. Pourtant, je ne pouvais pas croire encore que tout cela fût vrai. Cela me renversait que Madeleine ne dépendît plus de moi et que, pourtant, elle pût être heureuse. Je voulus alors parler dans son intérêt, comme si je ne pensais pas à moi. « Mais, au moins, es-tu certaine qu'il t'aime ?» Elle eut un sourire plein de confiance en soi, un sourire qui disait que, s'il y avait une chose certaine au monde, c'était bien celle-là. À mon accablement succéda alors de la colère. « Mais alors, tu m'as trompé ?» Madeleine me regarda avec stupeur. « Comme tu me connais mal, dit-elle simplement, de penser une chose pareille. Je ne t'ai pas trompé. Il n'y a rien entre cet homme et moi. Je ne l'aurais pas fait sans te prévenir. J'ai bien réfléchi. Maintenant, ma décision est prise. » Ma colère tomba. Qu'elle m'eût accusé de mal la connaître, m'avait fait brusquement entrevoir que, quoi que je fisse, elle le penserait toujours. Elle croyait avec tant de force que je ne la comprenais pas qu'il eût fallu être fou pour essayer de la détromper. Moi, ne pas la connaître! Mais il n'est pas une pensée qui traverse son cerveau que je ne devine. Et elle me reproche une incompréhension. Fais ce que tu veux, dis-je avec tristesse. Tu seras sans doute plus heureuse avec un autre qu'avec moi. Mais un jour, peut-être, tu te souviendras de moi et tu me regretteras. Tu comprendras alors combien grand était mon amour, combien au-dessus de tout il était. » Ces paroles, je les prononçais en me retenant de pleurer. C'était aux seuls êtres que j'avais aimés et que je perdais que je les adressais de tout mon cœur. J'avais oublié toute ma méchanceté, toute mon injustice, tout ce qui n'était pas le fond de moi-même, pour dégager de ce fatras ce qu'il y a de plus pur dans mon âme. Et Madeleine me répondit, « Je comprends que tu aies de la peine, mais je t'en supplie, ne parle pas d'amour. » Je sentis alors à quel point j'avais été loin d'elle dans la vie quotidienne. Elle ne m'avait jamais suivi. Et aujourd'hui, où j'eusse donné ma vie pour la garder, elle continuait de croire que je ne l'aimais pas. « Mais quel âge a-t-il » demandai-je encore. « En quoi cela t'intéresse-t-il? Tu ne m'as jamais posé tant de questions. » Malgré la douleur que j'éprouvais, je demeurai calme. Un maître mystérieux me défendait de me mettre en colère. Une seconde pourtant, la pensée de la retenir par la force traversa mon esprit. Mais tout de suite, elle s'évanouit. Et je me vis semblable à la brute qui martyrise les siens et qui, redoutant des gens plus forts que lui qui sont venus vivre dans son entourage, devient douce et n'ose plus rien faire. Cela m'humilia. Je me sentais le plus faible, et il y a quelque chose en moi de tellement petit que je suis alors incapable de me fâcher, moi si violent. Je ne tentais même pas de reconquérir Madeleine, et si j'avais quelque espoir, c'était en la pitié que je pouvais inspirer. « Regarde-moi, Madeleine, tu ne peux pas me quitter, » dis-je en fixant longuement mon regard dans le sien. « Je t'en prie, » répondit-elle, « tâche au moins une fois d'être sincère. »
« 2 février. Hier soir, je suis restée dans mon bureau. Madeleine, à la suite de son aveu, a changé complètement et le plus naturellement du monde. Pour la première fois depuis que nous sommes mariés, elle est sortie. Elle considère que, les choses étant dites, on peut agir immédiatement en conséquence, sans avoir besoin, comme je l'ai toujours fait, d'attendre par délicatesse quelques jours. Je suis donc restée seule. Alors une immense tristesse m'a envahie. J'ai songé à mon passé, à ma vie, et brusquement, je me suis vue abandonnée de tous. Une telle lassitude s'est emparée de moi que j'ai cherché une diversion. Et j'ai pensé à la façon dont Madeleine m'a appris qu'elle aimait un autre homme que moi. « J'aime quelqu'un », m'a-t-elle dit. Je ne sais pourquoi, ces mots quelconques ont subitement fait naître en moi une grande pitié pour elle. Je ne sais pourquoi cette façon de m'annoncer une nouvelle aussi importante m'a montré une Madeleine sans défense. J'ai eu le pressentiment qu'elle allait être dominée, qu'elle allait souffrir encore davantage parce que je ne serais plus là pour la comprendre. Ce dernier mot me dévoile tout à coup une vérité à laquelle je n'avais pas encore songé. La compréhension la plus profonde, la compréhension qui, jusqu'à aujourd'hui, m'était apparue comme la base de tout amour, est inutile. Il ne sert à rien de comprendre ses semblables. La compréhension profonde n'ajoute rien à l'amour. Oui, la lassitude qui pèse sur moi est quelque chose d'effrayant. J'ai passé la quarantaine et me voilà comme au début de l'existence. Si je recommence ma vie, ce sera avec prudence, mais la recommencerai-je? La prudence, la compréhension, tout est inutile. Il y a la lassitude et c'est tout. Que vais-je devenir? Elle aime quelqu'un. Et moi, qui m'imaginais que jamais elle ne pourrait être heureuse, élevée, aimée, sans moi. Eh bien, il faut croire que je me suis trompée. Les plus nobles sentiments, cela ne compte pas. Rien ne compte, ni la prudence, ni la compréhension, ni l'amour. Que voulait-elle de plus? Elle voulait un amour idéal. Mais ce dernier ne lui apprendra pas qu'il est laid de dire que l'on aime quelqu'un. Personne ne le lui dira. Et si elle est heureuse quand même, son bonheur ne peut être grand. Elle aura beau aimer et être aimée, elle m'aura perdue. Elle deviendra une autre femme, moins belle que celle qui fut à moi. Tous ceux qui l'approchèrent ne la reconnaîtront plus. Mais de nouveaux amis auront succédé au premier. Ses qualités et ses défauts se seront transformés et ce sera pour les nouveaux qu'on l'aimera autant que je l'ai fait. Elle n'aura même pas une pensée pour celui qui fut son compagnon de plusieurs années, car comment demander à une femme qui oubliera l'être qu'elle fut de ne pas oublier l'ami de cet être? Mais pourquoi lui en vouloir? Le temps passe. Et qui saura que jadis, elle quitta son foyer parce qu'elle aimait quelqu'un? Personne, sinon moi.